RFI. Grand reportage, Guillaume Cordeau.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui en Iran, à quelques mois d'une élection importante, puisqu'en mai prochain, le président sortant, Hassan Rouhani, sera candidat à un second mandat de 4 ans. Hassan Rouhani est un religieux modéré. Il a voulu et obtenu l'accord qui a mis fin à la crise du nucléaire. C'est aussi sous sa présidence que l'on a vu des femmes accéder plus nombreuses à des postes à responsabilité. Quels sont aujourd'hui les droits et les revendications des femmes iraniennes? À quels interdits sont-elles confrontées? Quelles sont les évolutions en cours? Iranienne, c'est le titre de ce grand reportage signé Nicolas Falaise.
Dans son appartement de Téhéran, la chanteuse Parih Maleki observe en souriant ses trois musiciens qui s'accordent et se préparent à l'accompagner. Parih Maleki est une artiste reconnue, interprète de musique traditionnelle iranienne. Ce soir, chez elle, le public est composé d'hommes et de femmes, ce qui serait impossible dans une salle de concert. Selon les lois de la République islamique, une femme ne peut pas chanter seule devant un public mixte. En concert, la voix de Parih Maleki doit forcément s'intégrer à un chœur avec des voix d'hommes. Si elle est la seule chanteuse sur scène, alors le public doit rester exclusivement féminin. C'est la loi, mais même lorsqu'elle est respectée, il n'est pas rare que les autorités annulent au dernier moment les concerts de Parih Maleki.
Il y a 2 ans, je devais chanter dans un festival de musique avec mon orchestre. C'était un spectacle mixte, avec des voix d'hommes et des voix de femmes. Mais un site internet conservateur a diffusé une vidéo dénonçant le spectacle et ils ont réussi à le faire annuler. Plus exactement, je n'ai pas eu le droit de chanter à mon propre spectacle. Seuls les chanteurs hommes ont pu se produire. Une autre fois, j'étais à l'affiche d'un festival dans le nord de l'Iran. Ce devait être un concert pour un public uniquement féminin. Mais ils ont aussi réussi à le faire annuler.
Au-delà des concerts, qu'en est-il de la possibilité que vous avez ou non de faire des disques, de passer à la télévision, de passer à la radio en Iran?
C'est impossible pour moi de diffuser ma musique à la radio ou à la télévision. En ce qui concerne les disques, c'est possible de réaliser des enregistrements privés et les disques dont la vente est autorisée en magasin sont ceux où ma voix est mélangée à celle des hommes, des enregistrements où ma voix n'est pas trop forte. Mais malgré cela, j'ai enregistré les morceaux où je chante seul, des enregistrements pour un usage privé. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la diffusion publique sera possible.
Une carrière jalonnée d'obstacles, d'interdits, mais à 65 ans, Parih Maleki montre toujours la même générosité, la même envie de chanter et de partager son art, puisqu'elle enseigne aussi le chant. L'artiste explique qu'elle aimerait parfois s'adresser aux religieux conservateurs, ceux qui refusent que sa voix résonne dans une salle de concert où un public mixte aurait pris place.
J'ai toujours recherché une occasion de pouvoir parler avec eux. Et dans mes interviews, j'ai souvent dit qu'avant d'être une chanteuse, je suis une mère. Si je chante une berceuse à mon enfant et que, des années plus tard, cette berceuse l'apaise encore, comment pouvez-vous soudain affirmer que cette voix et cette mélodie sont haram, interdits par la religion? Je suis persuadée que le son de la voix d'une femme est de nature à diminuer la violence, la tension. Elle peut apporter la paix et la sérénité. C'est ça que je voudrais leur dire.
Direction la mairie de Téhéran, où nous avons justement rendez-vous avec une personnalité conservatrice. Vêtue de noir, le visage strictement encadré par un voile, Zahrat Sadat Moshir est conseillère en charge des affaires des femmes pour la municipalité. Universitaire, elle est par ailleurs l'épouse du maire de Téhéran.
Pour nous les Iraniens, le rôle des femmes en tant que mères est très important. Le monde cherche l'égalité homme-femme. Mais nous, nous parlons d'équité homme-femme. Nous pensons que l'équité, c'est plus important que l'égalité. Dans l'idée d'égalité homme-femme, on ne tient pas compte du fait que les femmes sont plus avancées que les hommes dans certains domaines. Donc, toute approche doit plutôt se fonder sur l'équité. Il arrive que notre religion ne nous permette pas d'aborder certaines questions. Une femme ne peut pas chanter devant un public mixte, mais il n'est pas interdit à une femme de chanter dans le pays. Les femmes peuvent chanter.
Est-il exact qu'en Iran, une femme compte pour une demi-part au moment d'un héritage, d'une succession? Et si oui, pourquoi?
Oui, cela fait partie des questions religieuses. Le point important, c'est que dans notre société et notre religion, c'est la responsabilité de l'homme de diriger la famille. Tout est à la charge de l'homme et si la femme travaille, tout ce qu'elle gagne lui revient. L'homme ne peut pas intervenir. Ce principe de l'islam vise à soutenir la famille. Donc l'islam donne l'avantage à l'homme, au moment de l'héritage, pour qu'il puisse mieux s'occuper de sa famille. Et une femme est indépendante puisqu'elle peut conserver tout ce qu'elle gagne.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la réflexion sur le statut de la femme dans la loi, dans les lois iraniennes, est inspirée par les lois de l'islam, par la religion.
Oui, nous sommes un État religieux, donc notre constitution est basée sur la religion. Tout ce qui existe dans notre pays est basé sur la religion. Mais l'islam est une religion qui attache beaucoup d'importance aux exigences de l'époque. Et aujourd'hui, notre époque exige le développement et le progrès. Sur ces bases, nous avançons sur notre voie.
En Iran, la plupart des universités sont mixtes. Certains établissements sont réservés aux filles, comme l'université Zahra de Téhéran. C'est à la sortie des cours que nous rencontrons Farzaneh et Azine, deux étudiantes en ingénierie industrielle.
Je pense qu'en Iran, le grand problème, c'est que les jeunes ne s'attendent pas à un avenir facile. La plupart sont stressés lorsqu'ils pensent à leur futur, à leur travail. Pour les garçons, c'est pire, ils se bagarrent avec ça. Mais nous, les filles, vous savez, il y a toujours l'idée du mariage.
Pourquoi beaucoup de filles ne travaillent pas? Eh bien, cela dépend de beaucoup, de votre famille, de votre environnement, de vous-même. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais en Iran, c'est une réalité. Certaines filles pensent au mariage. Elles pensent que si elles quittent la maison, elles auront besoin d'argent. Alors, si on rencontre quelqu'un qui peut subvenir à nos besoins, pourquoi devrions-nous travailler?
Vous savez, dans notre pays et dans la plupart des familles, la situation est telle que beaucoup de filles manquent de confiance en elles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors elles se disent, j'ai besoin d'un homme à mes côtés pour me soutenir dans toutes les situations personnelles, pour faire face aux problèmes professionnels, aux problèmes financiers, blablabla. Je crois que c'est l'origine de tous les problèmes. Il y a des filles qui pensent que sans les hommes, nous ne pouvons rien faire. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont indépendantes. Elles se protègent et n'ont pas besoin d'un homme qui les protège. Mais aujourd'hui, en Iran et peut-être dans d'autres pays, il y a plus de possibilités offertes aux garçons qu'aux filles. Cela crée une différence si on ne nous offre pas les mêmes chances. Cela nous donne la sensation que dans certains cas, les garçons valent mieux que nous.
Sociologiquement, on peut dire que les femmes et après les jeunes ont été les acteurs les plus importants depuis 30 ans en Iran. C'est à cause ou grâce à un changement complet de la situation de la femme après la révolution.
Nasser Fakoui est anthropologue, il enseigne à la faculté des sciences sociales de Téhéran.
Avant la révolution, les femmes iraniennes étaient présentes dans la sphère publique, mais c'était une minorité dans les hautes couches de la société urbaine. La plupart des femmes iraniennes, elles n'entraient pas dans l'université. Mais après la révolution, ça change. Ça change parce que le discours révolutionnaire voulait dire que nous, on traite beaucoup mieux la femme que l'ancien régime, parce que l'ancien régime regardait les femmes en tant que sujet sexuel, tandis que nous, on pense que les femmes sont égaux. Égales avec les hommes, et elles doivent entrer dans la société, elles doivent étudier, elles doivent être à la hauteur de la femme islamique. Son rhétorique islamique révolutionnaire, ça a donné lieu à une vraie entrée des femmes iraniennes sur la scène sociale. D'abord parce que les familles religieuses, les familles moyennes et même les gens très pauvres, ils n'avaient pas confiance dans le système d'avant la révolution pour laisser leurs filles aller à l'université. Après la révolution, presque toutes les familles iraniennes envoient leurs filles à l'université. C'est un changement révolutionnaire, c'est-à-dire vous avez actuellement dans les universités, vous avez une majorité des filles.
On le constate ici dans votre université de sciences sociales à Téhéran ?
Oui, bien sûr. Il y a 7-8 ans, on était arrivé à 80% des filles, 80-90% des filles. Mais il y avait une réforme qui a prévu une sorte de quota sexuel. Et on a approuvé ça pour les garçons, parce qu'il y avait tellement de filles qu'on était obligé de mettre des quotas pour des garçons. Pour les filles, donc, on est arrivé à une société où presque toutes les filles font des études supérieures. Faire des études supérieures en Iran est devenu une valeur en soi. Et là, il y a une chance pour les filles, mais il y a aussi un problème, parce que le taux d'enrôlement des filles dans le monde du travail, c'est à peu près 13-14%. C'est le même taux qu'au début de la révolution.
C'est-à-dire que les filles sont entrées massivement à l'université, mais très
pas
peu...
Dans le monde du travail. Dans le monde du travail, c'est à 13%. Et ça a resté à 13%. Mais donc, là, il y a un conflit. Un conflit qui, à mon avis, ne peut être résolu que par un système de quotas, comme on a fait pour les Noirs aux États-Unis. J'ai proposé ça. Et je crois que dans les années prochaines, de toute façon, il faut faire ça. Il faut mettre des quotas pour faire entrer les filles dans les travaux. Mais paradoxalement, ça avait un autre effet. L'effet, c'était que beaucoup de ces filles qui avaient étudié, ils n'ont pas baissé leur bras. C'est-à-dire, ils ont dit, d'accord, on ne peut pas entrer dans le travail, mais personne ne nous interdit d'aller vers l'art, d'aller vers tout ce qui est social. Et donc, on a constaté une entrée massive de filles dans tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est artistique. Tous ces univers-là, c'est occupé actuellement par les filles. Donc, on est arrivé à une société un peu paradoxale où vous avez des filles de plus en plus intellectuelles, cultivées, artistes, et des garçons qui sont plutôt moins cultivés, parce que les garçons doivent travailler, comme on dit en Iran.
Le Parlement iranien, élu début 2016, compte 17 femmes députées sur un total de 290 sièges. 17 femmes au Majlis, c'est un record depuis la révolution islamique. L'actuel président iranien, Hassan Rouhani, s'est par ailleurs entouré de 3 vice-présidentes. L'une d'elles a accepté de nous recevoir.
Je m'appelle Shahindort Molaverdi, vice-présidente de la République islamique d'Iran pour les femmes et les affaires familiales.
Vous êtes vice-présidente. Est-ce qu'il pourrait y avoir une présidente de la République islamique ?
Si on se réfère à la constitution de la République islamique et à l'article notifiant les conditions pour l'investiture à la présidence de la République, il n'y a aucun obstacle à ce qu'une femme se déclare candidate et accède à ce poste. Mais à ce jour, aucune femme n'a pu franchir les différentes étapes pour parvenir à la phase finale.
Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez ?
Une femme à la présidence de la République ? Pourquoi pas, si les conditions étaient réunies pour qu'une femme puisse accéder à ce poste. On le voit dans d'autres pays. C'est une expérience que nous souhaiterions connaître.
Est-ce que votre objectif s'appelle l'égalité, ou est-ce que la notion d'égalité homme-femme ne fait pas partie de la constitution de la République islamique ?
Aujourd'hui, nous voulons dépasser l'idée de l'égalité. Nous parlons plutôt d'équité entre les sexes. C'est la direction que nous prenons.
Personnellement, est-ce que votre parcours professionnel, jusqu'à être aujourd'hui vice-présidente dans la République islamique, a parfois été un combat pour réussir pour y arriver en tant que femme.
Tous les jours, on peut rencontrer des difficultés lorsqu'on est une femme. Par exemple, avant d'être vice-présidente, je dirigeais une étude de notaire. Les clients et même les clientes me demandaient « Où est le notaire ?» Je répondais « C'est moi le notaire ». Alors certains ne me croyaient pas, ils baissaient la tête et sortaient. Pourtant, mon nom était écrit sur la plaque à l'entrée du bureau. Et puis, il y a ceux qui me faisaient confiance et qui devenaient des clients habitués et fidèles. Le fait d'accepter les femmes dans des postes à responsabilité pose encore des problèmes dans notre société. C'est la conséquence de certaines lois non écrites et d'une vision ancrée dans la culture et la tradition. Et cela pose des problèmes aux femmes qui occupent des postes à responsabilité.
C'est un café branché de Téhéran. Comme partout en Iran, le port du voile est obligatoire pour les femmes, même s'il n'est pas rare d'observer un certain relâchement des Iraniennes qui ne se hâtent pas pour se couvrir lorsque le foulard a glissé découvrant leur chevelure. Ces derniers mois, les réseaux sociaux ont aussi relayé une campagne spontanée en défi au hijab obligatoire des Iraniennes qui ont publié des photos d'elles tête nue. Mais pour certaines, le combat se situe ailleurs. Neda est journaliste, trentenaire, elle écrit depuis peu au Tehran Times, un site internet fondé en 2012. Au départ, c'était un blog dédié à la mode.
Pour le Tehran Times, je suis en charge d'une nouvelle rubrique intitulée « Les femmes d'aujourd'hui ». Nous essayons de raconter le succès de personnalités féminines iraniennes vivant dans le pays ou à l'étranger. Certaines sont entrepreneurs, d'autres sont créatrices de mode, certaines sont chanteuses. Si nous avons souhaité mettre en valeur leur parcours, c'est parce que ça peut offrir un exemple à des femmes plus jeunes qui ont besoin d'inspiration. Le message, c'est tout simplement « Rien n'est impossible ».
Nothing's impossible.
Vous diriez que The Tehran Times fait attention à respecter les codes, les lois en vigueur, notamment dans les images qui circulent sur le blog et sur les réseaux sociaux.
Oui,
plutôt nous respectons le code islamique, ce qui signifie que les femmes portent le hijab, donc les cheveux ne sont pas visibles, et la tenue est décente et couvre la peau, les visages sont visibles, les mains aussi. Les règles minimum sont respectées, si l'on peut dire.
À propos de mode et de style vestimentaire qui sont largement évoqués dans The Tehran Times, comment on concilie ça avec les règles religieuses lorsqu'on est une jeune femme comme vous en Iran?
Je ne pense pas que vous rencontrerez beaucoup de personnes qui vous diront que le hijab est une source de frustration pour elles. À mon avis, c'est le contraire. Le hijab a permis à des femmes de réaliser des choses qu'elles n'auraient pas pu réaliser. Par exemple, sans le hijab, le pouvoir islamique aurait tout simplement ordonné aux femmes de rester à la maison. Vous voyez toutes ces femmes qui deviennent députées. Sans le hijab, elles ne seraient pas là. Et j'entends souvent les étrangers qui visitent l'Iran dire que les femmes ont réussi à faire du hijab un bel accessoire de mode. Et vous n'avez pas l'impression que c'est une limite pour elles?
En regardant ces femmes sur lesquelles vous travaillez, comment vous imaginez l'évolution de leur place dans la société iranienne dans 5 ans, 10 ans, 15 ans?
Je crois que le progrès est assez rapide. Nous avons progressivement accompli beaucoup de choses au cours des dernières années. Une Iranienne a remporté une médaille olympique. Nous repoussons les limites une par une dans différents domaines, qu'il s'agisse des sciences, de l'entrepreneuriat, de l'art, des sports. Les femmes réussissent et je pense qu'il y a beaucoup de succès en perspective pour les 5 ou 10 prochaines années.
Iranienne, reportage Nicolas Falaise, réalisation Ludivine Amado.
Bonjour à tous.